Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler d'Apple, qui fait des trucs incroyables dans l'Union européenne. On a aussi Thierry Breton, qui fait des trucs incroyables dans l'Union européenne. Meta, qui finalement va pas si mal, après avoir été pas si bien. Et bien sûr, de l'IA et du Twitter. C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 511, nous sommes en mai 2023. Il y a des nouveaux patriotes, notamment Julien Masset, Richard Coffre, Frédéric et les producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizard. Merci à vous tous, merci particulièrement à Julien, Richard et Frédéric qui nous rejoignent. Et si vous voulez faire comme eux, c'est patreon.com/rdvtech, vous connaissez, vous savez. Et le plus important dans tout ça, c'est pas tellement le fait qu'on a un nouveau Rendez-vous Tech qui arrive dans vos oreilles grâce aux Patriotes, grâce à eux et elles, qu'on remercie chaleureusement. C'est surtout qu'on a un nouveau Rendez-vous Tech avec les Fabulous au complet, les Fabuluchosos au complet, c'est-à-dire Jérôme, qui est là, juste ici. Comment ça va, Jérôme? Tu dis bonjour ou pas?
Non. Bah ça va, j'ai fait un dabs. Merde, je suis revenu 10 ans
en podcast,
ça marche moyen.
Ouais, en podcast.
Non, mais je me suis dit, vu notre âge moyen que j'ai tendance à alourdir, je me suis dit un petit dab passerait bien. Hein, wesh les jeunes.
Disons que tu compenses avec ton background bien twitchesque, donc ça va. Il y a du violet et du rose. C'est pas mal. On a aussi quelqu'un qui est en conférence call Zoom dans une salle de réunion WeWork, juste au-dessus ici, c'est Cédric Deluca. Comment ça va, Cédric?
Je suis pas du tout, je suis au bureau et c'est le studio d'enregistrement qu'on a monté avec Laurent, avec des gants d'ailleurs. Voilà, ah, c'est lui qui a peint le mur.
D'accord, bah, il est magnifiquement peint. C'est surtout la caméra, tu vois, t'es tellement loin de la caméra, oui, que c'est un truc qui est prévu comme tu fais tes émissions sur ta chaîne Twitch pour plusieurs personnes, plusieurs intervenants.
Tout te dire, j'ai viré les micros, mais parce qu'en fait il y a les micros partout normalement. Et
les voilà, remets-les, ça fera plus, tu vois, Twitcher, ouais. Podcaster professionnel. Merci d'être avec nous, Cédric. On a également Corben de Corben.info, site alimenté visiblement entièrement par intelligence artificielle, d'après ce que j'ai compris. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va, mais alors tu vois, moi j'ai un fond moins sexy que WeWork et tout ça, mais bon, moi c'est fond vert, donc je peux être dans un vaisseau spatial si j'ai envie, ça me coûte moins cher.
C'est ça, exactement. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Corben a effectivement un rideau vert derrière lui qui fait, là encore, c'est dingue, hein. On est quand même tous sur Twitch maintenant. Alors, on y est arrivé en retard par rapport aux jeunes. Encore que, j'aime à rappeler que mon premier live d'une émission, c'était en 2007. Mais, il n'empêche, maintenant, tout le monde est sur Twitch. On fait tous tous nos trucs sur Twitch. Non,
attends, le live, on en fait depuis longtemps du live quand même. Ouais. Alors, Twitch, je suis d'accord.
Alors, c'est ça.
Moi, mon émission, ça va faire 7 ans que je la fais, la matinale, en live. Quand même.
C'est vrai, c'est Periscope et tout.
7 ans ?
Ben oui, c'était... j'ai commencé avec Periscope, moi.
Ouais, je me souviens, moi, je regardais sur Periscope. Pendant le petit-déj.
En fait, Corben, il attend toujours sur Periscope.
Ouais, moi, non, il n'y a plus rien sur Periscope. Je m'inquiétais, Jérôme, mais je suis content de voir que tu as changé, en fait.
D'accord.
Je vais pouvoir venir sur Twitch.
Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Vous pouvez également suivre tous mes invités qui sont également sur Twitch régulièrement. Jérôme qui fait ses matinales tous les matins, enfin l'équipe de Nowtech. On a Corben qui travaille en public. C'est une sorte de Truman Show moderne qui travaille en public quasiment 24 heures sur 24. Et Cédric qui nous fait...
Moi, je suis un peu partout, ouais. J'ai Pulsar eSport, je suis... à partir de jeudi, on lance la chaîne de l'école aussi, enfin bon, voilà.
Oh, la chaîne de l'école. Incroyable.
Avec Laurent.
Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, vous pouvez suivre tout ça, mais en ce moment, là, tout de suite, eh ben, vous écoutez un podcast.
Rendez-vous tech. Allez, il y a plein de trucs à dire.
Et voilà, et on se lance tout de suite dans les infos qu'on va énumérer et détailler tout de suite. Et alors, je vais être un petit peu honnête deux secondes avec vous. Les Fabulous et la chatroom m'en sont témoins. Je vais être un petit peu honnête. En fait, les news les plus importantes à retenir de la semaine, c'est plutôt, encore une fois, des trucs du domaine de l'IA et de Twitter. Allez, même plus de l'IA que de Twitter. Mais je me suis dit que ça faisait quand même un petit peu répétitif. Et donc, j'ai mis d'autres trucs que j'ai réussi à casser dans les news. De... dont Thierry Breton. Écoutez, on ne sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Si, si, on sait, c'est le DSA.
Pour, tout ça. Pour parler d'intelligence artificielle, Thierry Breton, bien sûr, quand même.
Pas du non, tout, mais... pas du tout.
Patrick, je comprends ton calvaire parce que c'est ce que je vis en ce moment tous les matins. Mmh. Essayer de trouver un article qui ne parle pas d'intelligence artificielle en ce moment dans les news tech, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et en même temps, bah, tu te dis, si on n'en parle pas, tout est en train de se dérouler en ce moment. Mais en même temps, les gens sont gavés, ils en peuvent plus de l'intelligence artificielle. Mais ça bouge à une telle vitesse.
Mais c'est un peu, tu sais, imagine, pour faire un parallèle, genre tu fais une émission, je sais pas moi, d'actualité, de géopolitique mondiale, hein, et tout à coup, il y a une invasion de zombies qui commence à déferler sur le monde, qui commence, je sais pas, on va dire à l'Est, en Asie, et qui peu à peu commence à marcher, tu vois, les zombies marchent vers l'Ouest peu à peu, et ça prend 2 ans. Genre, au bout de 6 mois, tu vas pas dire « Ah, les zombies, on en a marre. C'est bon, on va arrêter de couvrir les zombies maintenant. Ok, ils arrivent, ils sont en Afghanistan, vous voyez, ils sont en train de marcher sur Kaboul. Vous en avez soupé. » C'est un peu ça, quoi. Tu vas pas dire « Non, bah, arrêtez d'en parler. »
Les gars, on le vit, on l'a vécu avec le Covid, là. Tu parlais des zombies, on l'a vécu avec Palmade, on l'a vécu. Oui, oui, oui. Bah, je veux dire, c'est ça. Donc maintenant, ouais. c'est nous qui subissons, mais BFM, ils vivent ça tout le temps, en fait.
Mais... Patrick, mine de rien, tu soulèves un problème très, très intéressant, le problème de l'infotainment. Mmh. C'est-à-dire, les gens nous écoutent aussi pour de l'entertainment, mais en même temps, on doit quand même faire de l'info. Ouais. Donc, moi, je dis, il faut trouver des angles. Pour, tu vois, les zombies, tu peux les traiter de plein d'angles différents. Comment se faire ami avec zombies les zombies ont-ils le droit de vote quel est l'âge de la retraite des zombies? Quel est l'âge de la retraite des zombies?
Ah, écoute, moi j'ai envie de poser ça. Je pense que c'est la solution. Et du coup, la retraite avec l'IA, bah, elle a été clairement avant les 62 ans, c'est même pas voilà. Ça va être un petit peu plus tôt grâce à l'IA qui prend. Et vraiment, quand on dit ça avance vite, vous allez voir que notamment Corben m'a montré un script là il y a quelques jours qu'il a développé juste pour s'amuser pour son site. Vous allez voir que c'est quand même assez incroyable. On va en parler dans un instant, mais avant ça, il y a quand même les quelques news que je voulais évoquer, parce qu'elles sont quand même importantes aussi, notamment le fait que... Alors, Apple, ils vont présenter leur nouveau produit à la WWDC dans un mois environ. On a des rumeurs sur le fait qu'il y ait, par IA, un moteur de surveillance de votre santé qui pourrait vous dire « alors mange pas ça, fais plutôt ci, fais plutôt ça », qui fonctionnerait en partie avec l'Apple Watch, évidemment. C'est intéressant de le voir continuer à pousser dans ce domaine-là. Il y a aussi, justement, pour WatchOS, de grands changements qui seraient prévus pour cette année, avec un focus sur les widgets plutôt que les apps, donc des petits extraits d'informations plutôt que des apps entièrement fonctionnelles. J'ai aussi une news sur Apple intéressante qui chiffre leur succès dans le domaine des téléphones de seconde main, d'occasion, et il semblerait qu'ils aient désormais 49% du marché mondial des téléphones de seconde main. 49%, c'est incroyable parce que Apple est connu pour avoir le marché du haut de gamme et du très haut de gamme, évidemment. Et on se dit, bah, évidemment, ils ont tous marché qui rapporte beaucoup d'argent, mais dans le reste du monde, du vrai monde où les gens n'ont pas deux SMIC à mettre dans un téléphone, bon, bah, c'est plutôt des téléphones moins chers, dont des Android. Alors, c'est sans doute vrai pour les téléphones neufs, encore que, mais sur l'occasion, bah, 50%, on va dire la moitié du marché, c'est des iPhones parce qu'ils maintiennent leurs appareils depuis tellement longtemps. On en parlait il y a quelques semaines. Deuxième position, c'est Samsung avec 26%, ce qui est quand même pas négligeable. Et c'est une marque reconnue avec des appareils de qualité. Et après ça, c'est moins de 5% pour tout le monde. Hein. Oppo, Vivo, Huawei, tout ça. Et l'autre news Apple qui m'a paru intéressante, c'est en raison de la mise en application du DSA, Digital Services Act, en Europe, Apple et d'autres ont dû déclarer le nombre d'utilisateurs qu'ont leur plateforme en ligne. Et en l'occurrence, pour Apple, c'est surtout les App Store. Et on a les chiffres suivants qui sont révélés. Pour iOS, enfin l'App Store iOS, attention, pas pour la plateforme iOS elle-même, mais pour iOS, on a 101 millions d'utilisateurs mensuels en Europe. Pour iPad, 23 millions. macOS, 6 millions. Et ensuite, on a tvOS à 1 million. Et watchOS, Books, Podcasts, tout ça, ont chacun moins d'un million. C'est notable, bien sûr, parce que ça montre que les App Store ne marchent pas forcément partout. Bien sûr, sur iOS et sur iPadOS, et même dans une certaine mesure sur macOS, ça marche. Sur watchOS, moyen, c'est peut-être pour ça notamment que watchOS 10 devrait se départir un petit peu ou s'éloigner un petit peu des apps spécifiquement. Ça fait beaucoup de news là-dedans, mais il y a quand même des choses intéressantes à traiter. Je vous laisse me dire chacun ce que vous... Je voyais Jérôme hocher de la tête tout à l'heure. Il y a un truc qui t'a parlé plus particulièrement.
C'est clair que sur... Nous, on le voit bien parce qu'on a pas mal parlé des smartphones de seconde main et tout ça. Quand tu parles de la tête du classement Apple-Samsung, en fait, il n'y a pas à chercher. Les marques qui ont le meilleur SAV, ou en tout cas la meilleure réputation de SAV, sont les smartphones qui sont les plus pérennes et qui vont se revendre. En fait, les gens ne vont pas acheter une marque moins connue s'ils achètent du recyclé. On va aller vers des valeurs sûres.
Ça se fait sur la réputation, quoi.
Voilà, la réputation. Apple, et c'est quand même tout le paradoxe, Apple a acquis une espèce de réputation d'avoir des batteries de merde et des smartphones jetables. Alors que vraiment, dans les faits, et ça, moi, je parle des faits, je suis un Apple fanboy, alors oubliez que c'est moi qui parle, je me masque, voilà. Dans les faits, Apple est aujourd'hui la seule marque de smartphone à avoir un vrai SAV, un vrai suivi. Alors, ça coûte cher de réparer, mais ils ont quand même les produits les plus durables, même en termes de batterie. Le changement de batterie chez Apple, ça coûte cher, mais on peut le faire. Ils mettent à jour leur smartphone des mises à jour de sécurité 10 ans après et une mise à jour normale, la durée de vie d'un iPhone reste supérieure à tout ce qui existe. Donc, quand tu achètes du recyclé, tu achètes généralement 2, 3, 4 ans après la sortie du produit. Tu ne vas pas acheter un téléphone, je ne vais pas donner de nom parce que je veux me fâcher avec personne et je cherche quand même des sponsors, bonjour, coucou. mais je veux me fâcher avec personne, mais la plupart des smartphones Android, 2, 3 ans de mise à jour et le SAV, soyons honnêtes, 2 minutes, il n'y en a pas. C'est des smartphones jetables. Je suis un peu brutal en disant ça, mais c'est du smartphone jetable.
Tu vas à la boutique de réparation. Ouais, vas-y, Cédric.
Je ne cherche pas de sponsor, mais non, mais tu prends tous les téléphones, même Xiaomi. Pourtant, Xiaomi fait pas mal d'efforts sur la durabilité des produits, mais ça fait partie de la famille des téléphones où il n'y a plus de mise à jour. Les Oppo, etc. Il y a OnePlus qui fait l'effort sur les mises à jour, mais qui, par contre, le SAV est inexistant, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que aujourd'hui, tu veux faire réparer ton téléphone OnePlus, tu fais comment ?
C'est sûr.
Voilà. La force d'Apple, c'est la présence de boutiques physiques offline.
C'est
en
facile,
fait.
Ouais.
Tu vas là, tu, mais en fait, et même le réseau de premium resellers qui gère le SAV pour eux, en fait. En fait, c'est ça la force du truc. Et aujourd'hui, personne n'est prêt à mettre les moyens pour faire ça. Xiaomi a tenté avec ses boutiques Xiaomi, mais ces boutiques, en fait, sont là juste pour faire de la vente. C'est un showroom.
C'est un petit peu...
Il n'y a pas la partie SAV.
Ce qui est marrant, c'est qu'Apple a commencé en showroom avec ses boutiques, et puis maintenant, ils en ont tellement, ils font tout, quoi. Et la durée... Moi, ce qui me frappe...
Il y a toujours eu les Genius Bar, quand même, dans les stores Apple. Hein.
L'image que tu avais, c'était que les boutiques Apple, c'était surtout pour que tu puisses mettre les mains sur les produits Apple, les regarder un petit peu. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu les Genius Bar, notamment. Ce qui me frappe vraiment, moi, c'est ce que je disais, c'est que bah, ça leur permet de capturer une partie du marché dont ils étaient traditionnellement pas les premiers fournisseurs, quoi. Le fait que après, tu puisses effectivement acheter des téléphones à 200-300 euros Apple, bah, un petit peu plus peut-être parfois, mais c'est, ça leur permet d'avoir... c'est ce dont on parlait déjà avant.
Après, il faut voir un truc quand même sur l'histoire du marché de seconde main, c'est que Apple, avec son contrat qui est... d'ailleurs un peu controversé, de tu loues ton téléphone et tous les ans tu as droit au nouveau modèle. Alors ça concerne surtout les États-Unis, mais
ouais, c'est pas arrivé en France.
Chaque année, si en fait, chaque année on te change ton téléphone. Bah, fatalement, tu as des millions de téléphones qui sont encore en état de marche et qu'en fait bah ils revendent, et c'est comme ça qu'en fait ils gagnent ces parts de marché aussi sur le refurb. C'est qu'en fait ils récupèrent les téléphones qui sont en location finalement, ils font les réparations qui vont bien, on change la batterie, si la vitre est pétée, on change la vitre, etc. Et ils le remettent sur le marché en fait.
Ouais. Ça
moi, ce que je comprends, c'est que les gens préfèrent acheter un iPhone reconditionné qu'un Android 9 hein, finalement.
Ah mais oui.
Bah oui. Non mais c'est...
c'est terrible. Et je vais même plus loin. Tu sais, quand tu vas au SAV Apple, quand tu as un problème sur ton téléphone, tu as un problème de connecteur, etc., ils ne peuvent pas te le changer sur place parce que la soudure, parce que ce que tu veux, il faut le renvoyer en usine. Mais pour satisfaire le client, eh ben en fait, ils te donnent un refurb. En fait, ils te remplacent ton téléphone, pas par un neuf, mais par un refurb, en fait, eux ont remis en état. Et ensuite, le tien va repartir à l'usine, va être réparé, etc., et revenir pour faire du refurb.
Et ce qui est intéressant, quand tu dis ça, Corben, il préfère un Apple d'occasion qu'un Android 9, bah, ton Apple d'occasion, imaginons qu'il est, allez, on va dire 3 ans, bah, il est encore bon pour 3 ans, alors que ton Android, t'es pas sûr qu'il soit bon pour 3 ans. 3 ans, c'est le bon standard sur Android avec les mises à jour de sécurité, etc. Donc,
il faut voir, la problématique, c'est aussi la baisse de valeur du produit. Hein, c'est-à-dire que l'iPhone aujourd'hui, si vous le regardez, le prix de vente d'un iPhone 9, et c'est le même que le jour de la sortie, à 50 euros près quand il y en a qui font des promos vite fait. Mais en fait, ça ne perd pas de valeur. Alors, artificiellement, sans doute, mais ça ne perd pas de valeur et ça perd beaucoup moins vite de la valeur. Et d'ailleurs, il y a des téléphones de la génération d'avant que tu achètes d'occasion, des iPhone 13 ou même 12, qui coûtent plus cher que des téléphones Android 9 qui sortent aujourd'hui.
Ouais.
Et en fait, c'est aussi ce qui entretient le fait que...
conserver le téléphone long. J'insiste, c'est dû en partie au choix que fait Apple dans le design, ça évidemment, et on les aime ou on ne les aime pas, mais c'est également dû au fait que leurs appareils, ils sont maintenus sur beaucoup plus longtemps, alors peut-être que c'est encore trop court, hein, 6-7 ans, mais beaucoup plus longtemps que les appareils d'en face. Et ça, c'est extrêmement important.
Mais c'est quand tu maîtrises le hardware et le software, en fait, bah, ça donne ça, en fait.
Oui, et que tu fais une expérience premium aussi. Hein. Ça joue le fait qu'à la base, les téléphones, ils sont vendus plus cher que les...
Enfin, truc intéressant sur les chiffres de store. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'en fait, on a une idée du coup du volume. Parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, on ne va pas se mentir à nous-mêmes non plus. Les iPhones en circulation utilisent le store, même pour télécharger l'appli Twitter gratuitement ou Facebook ou je ne sais quoi. Mais du coup, ça donne un indice sur le volume vendu d'iPhone, d'iPad et de Mac dans l'Union européenne. Alors le Mac, un peu moins, parce que tout le monde ne va peut-être pas sur le store.
C'est ça,
Et pour je suis les sûr que
sur les iPads, il y a
plein
iOS, de gens qui...
c'est assez précis, hein.
Ouais, sur les iPads, je pense que, évidemment, une majorité va sur le store, mais peut-être un petit peu moins. En même temps, ce n'est pas une surprise qu'ils se vendent moins d'iPad.
TVOS, par contre, c'est hyper précis, parce que là, c'est pareil. Quand tu récupères l'Apple TVOS, TV, si tu ne télécharges pas...
Tu vas télécharger Netflix, au minimum.
Voilà.
Donc,
Donc, fatalement, ça donne un chiffre hyper précis de ce que représente Apple en millions d'unités.
Alors, n'oublions pas qu'on parle de chiffres mensuels. Tu vois, iPad, déjà, tu ne vas pas aller sur l'App Store tous les mois, je pense. Non. Mais certainement, sur ton Apple TV, tu vas y aller au lancement, à l'installation. Et après, pendant très longtemps, tu ne vas pas retourner sur le store. Donc, il faut mesurer un petit peu les conclusions qu'on peut tirer de ces chiffres. Mais ils sont intéressants dans tous les cas. Thierry Breton nous parle un petit peu de ce qui se passe avec le DSA. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est le DSA ? C'est le Digital Services Act. C'est l'un des deux gros morceaux de législation qui a été implémenté par l'Union européenne pour réguler les grosses plateformes et les marchés sur Internet, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Alors, si on parle du Services Act, en gros, ce que ça veut dire, c'est ça met tout le monde au pas, toutes les plateformes au pas dans l'Union européenne, il y a une législation au niveau européen qui fait que les grosses plateformes qui ont plus d'un certain nombre de millions d'utilisateurs par mois doivent observer certaines règles qui sont, allez, à la louche, c'est un petit peu les règles qu'on observait déjà en France. Il y a des questions de modération, des questions de régulation, etc., etc. Mais les sociétés qui sont concernées par ce truc, c'est Alibaba, AliExpress, l'Amazon Store, l'App Store d'Apple, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, bien sûr, Google Maps, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando. C'est les plateformes qui sont vraiment, qui sont considérées comme des très grosses plateformes et qui vont devoir se plier à ces règles-là. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire là-dessus, si ce n'est que l'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est qu'encore une fois, on s'éloigne un petit peu de cette idée qu'on avait il y a à peine 5-6 ans, où on se disait « Oh, ces grandes sociétés dont sont des nations, elles n'ont, nous n'avons aucun pouvoir sur elles, machin. » Et bien, comme quoi, non, en fait, il suffisait de faire des lois. Et quand on fait des lois, ben, elles doivent s'y plier. Donc, c'est intéressant à noter, je trouve. Voulez-vous parler un petit peu de Meta ? Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Thierry Breton, du coup, hein.
Pose-nous une question sur Thierry Breton.
Vive la Bretagne. Alors,
Thierry Breton, pour ou contre ?
Non, moi, ce qui me fait... Alors, franchement, Thierry Breton, je trouve que...
On va vraiment parler de Thierry Breton, très bien.
Mais oui, non, mais il y a des choses à dire en termes d'image de la France au niveau de la tech.
Parce alors, pour rappeler, Thierry Breton, donc, c'est le commissaire européen chargé des, en gros de l'Internet. Je schématise un peu, mais c'est celui qui dirige l'entité européenne qui gère les marchés numériques. Voilà.
Je dis ça comme... Et il comprend ou il fait n'importe quoi
moi, bah, écoute, regarde les lois. Moi, lui, personnellement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que...
Pour l'avoir vu en interview, je pense qu'il est bien entouré. Il a des gens qui le conseillent. Il ne dit pas trop de conneries. Mais en fait, moi, le truc qui me frappe toujours, c'est quand tu as des images de Thierry Breton qui va voir des Elon Musk, des gens comme ça. Et lui, il est habillé avec ses petits costards des années 80. Je suis sûr qu'il a des chaussettes rouges comme Balladur. Tu sais, le look homme politique années 80, avec sa coiffure un peu romantique. Je ne sais pas, c'est une certaine image de la France dans le monde de la tech, je pense.
La classe à la France.
Et de l'Europe, une image de la classe à la française des années 80 qui me fait toujours sourire. Après, moi, je trouve que Thierry Breton, pour avoir lu au-delà du costume, hein, parce que le costume ne fait pas le moine, ni le breton, il fait... Enfin, je trouve que globalement, l'Europe fait des trucs pas mal et qu'on est arrivé à faire passer une idée qui était incongrue il y a encore 5 ans, c'est que oui, l'Europe a des règles pour Internet, même si ce n'est pas nous qui avons les sociétés Internet. Mmh. Parce qu'on est, dans ce cas de figure, on a quasiment zéro entreprise dans Internet, l'Europe.
D'ailleurs, dans la liste,
c'est pas pour ça qu'on doit se plier à toutes leurs exigences, quoi.
Dans la liste, à part Zalando, il n'y a pas d'Européens, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas su monter des startups, ça c'est... d'autres sujets, on n'a pas su monter des Google, on n'a pas su monter un Internet européen, mais c'est pas pour ça qu'on doit se laisser faire, en fait. Mmh. C'est un peu, si on doit faire une analogie avec le pétrole, c'est pas parce qu'on n'a pas de pétrole qu'on n'a pas le droit de légiférer sur le commerce du pétrole, puisqu'on en est tributaire. Et ben, c'est exactement ce que fait Thierry Breton et les Européens, on va dire les législateurs européens, et c'est une bonne chose. Même s'il y a des conneries qui sont faites, même s'il y a des choses maladroites.
Si c'est pénible de cliquer sur accepter tous les cookies.
Exactement. Moi, je suis quand même 100% pour qu'on dise, bah, les gars, on va pas se plier à toutes les règles de marché, quoi, américaines ou chinoises.
Alors, j'ai demandé à l'IA ce qu'elle en pensait. Elle fait une analogie intéressante. Elle dit, en fait, il faut imaginer que la régulation numérique, c'est un grand bateau en plein voyage. Et jusqu'à présent, les géants du numérique étaient comme des passagers qui profitent de la traversée sans vraiment suivre les règles de sécurité. Mais le DSA, ça change la donne parce que désormais, les équipages sont prêts à intervenir, à rappeler à l'ordre des passagers récalcitrants. Et les passagers devront désormais s'assurer que leurs actions ne mettent pas en danger le reste du navire.
Pas mal. Eh, il y a Google, ça. Il est encore bourré, là. Il est en train de jeter les gens par-dessus bord. Faudrait faire quelque chose. Ah non, mais on peut pas. Attendez, non, c'est les géants de l'Internet. On peut... Si, allez, vas-y, dis-lui quelque chose, Siri. Vas-y. Mais je suis en costume, je veux pas. Mais recoiffe-toi un petit peu, ça va passer, tu vois, t'as l'air sérieux. Ok, très bien. Bah voilà, ça marche. Ça marche. Enfin, ça marche. On verra une fois que ça sera vraiment implémenté. Donc, Meta, le dernier gros sujet super important, eh ben mine de rien, c'est quand même important parce que ça dit quelque chose sur Meta et la bourse, peut-être. Alors, au-delà du fait que ça va, y a des montées de revenus chez Meta, ils continuent à dépenser énormément d'argent dans le métavers, même s'ils s'intéressent aussi à l'IA, mine de rien, et Zuckerberg a dit non, mais on n'arrête pas de métavers, vous déconnez ou quoi ? Non, on continue. Mais bien plus important que ça, comme partout ailleurs dans la tech, bah, les revenus sont plus importants que ce qu'on pensait, et chez Meta, ça a provoqué, alors peut-être cette raison, peut-être d'autres, ça a provoqué une remontée du cours de l'action de Meta, qui était dans les toilettes en novembre dernier et qui a repris 170%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait à l'époque, ça devait être en novembre, d'une chute de genre 40% du cours de l'action en quelques mois. Enfin, c'était dramatique. Ben là, ils sont remontés. Alors, pas aussi haut qu'ils étaient au plus haut de leur histoire, mais 170% d'augmentation, donc 70% d'augmentation. Dans ces derniers mois, alors que Meta n'a pas changé. Hein. À moins que j'ai raté un truc, c'est pas qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, c'est pas qu'ils ont changé d'orientation. Alors oui, comme tout le reste de la tech, ils ont licencié des milliers et des dizaines de milliers de personnes, ok. Mais à part ça, 170% de... C'est pas dur, en fait. Enfin, si, c'est vraiment aléatoire, ou il y a une raison, ou... C'est juste que, en fait, Meta, bah, autant... Du jour au lendemain, ils n'étaient pas devenus, ils n'avaient pas perdu toute leur valeur comme société. Et ben là, c'est la même chose. Du jour au lendemain, ils sont pas. On s'est rendu compte que Meta reste Meta, qu'ils ont des milliards d'utilisateurs mensuels, qu'ils ont Instagram, qu'ils ont WhatsApp, et que ça va quoi. C'est pas non plus la fin des haricots tout de suite pour Meta.
Juste des histoires de bourse en fait, c'est ça.
Alors oui, c'est juste des histoires de bourse, mais je crois que ça a des conséquences dans le monde réel aussi, parfois.
Ouais, mais je veux dire, les origines ne sont pas vraiment définies, quoi. C'est pas Meta qui...
Ah si, ils ont embauché un contrôleur de gestion qui leur a dit ouais. « on arrête
». Mais non, parce qu'ils continuent à investir dans le métavers.
Mais après, d'un point de vue boursier, c'est... terriblement anticapitaliste ce que je vais dire, mais c'est totalement vrai.
Ah, tu vas te faire des ennemis si tu fais des choses anticapitalistes.
On vit dans une saucisse.
On vit dans une saucisse.
La bourse adore les licenciements quand ils sont à bon escient. C'est-à-dire que Meta... En fait, n'oublions pas que la bourse ne juge jamais la valeur d'une société au moment où on en parle, mais la valeur future. Meta avait beaucoup trop d'employés par rapport aux prévisions futures de rentabilité. Donc la bourse a récompensé. La valeur de Meta a augmenté à la bourse à partir du moment où ils ont fait un sérieux écrémage. C'est terriblement sordide de dire ça, mais la bourse déteste quand tu as trop de gens sur un bateau, pour reprendre nos analogies maritimes d'André Breton, de Thierry Breton, pas André Breton, je confonds. Voilà, la bourse déteste si tu as trop de passagers sur un bateau qui est en train de prendre l'eau. Donc, c'est surtout ça le résultat de la montée de Meta, c'est les licenciements. Et le deuxièmement, c'est les investissements. Oui, il continue le métavers, entre guillemets, mais le métavers est dans le rouge, tout le monde le sait. Et maintenant, tous les investissements se font dans l'IA. Et l'IA, à tort ou à raison, c'est le nouvel Eldorado pour la bourse. Dès que tu dis IA dans une réunion, on te donne de l'argent. Il y aura des scandales de fausses boîtes IA. En veux-tu, en voilà d'ici un ou deux ans. Ça va se débunker comme pas possible. Mais pour l'instant, on te jette de l'argent dès que tu dis IA. Non, mais donc, vraiment. Hein.
Donc, tu crois que le fait que Meta se soit rendu compte que, le métavers, très bien, mais l'IA, peut-être qu'ils devraient rechanger le nom, en fait. Meta, peut-être
oui,
que...
Oui, ils vont s'appeler A. Ils vont juste s'appeler A, comme AI, puisqu'ils s'appelaient Meta pour Metaverse, tu vois.
Juste ouais, A. C'est juste A. Très bien. Non, ils pourraient s'appeler Maïta. Tu sais, M-A-I-T-A.
Ouais,
Maïta. Tu mais, vois, c'est l'IA en méta, le méta.
Mais on plaisante, mais ça montre que, et non, ça, c'est le signe le plus inquiétant, Mark Zuckerberg a fait un mauvais pronostic sur le futur. En tout cas,
ça avec son
en 2023.
Le problème, ouais. Alors, l'IA, je ne vais pas lui jeter la pierre. Aucun des gros, à part Microsoft, par son association avec OpenAI, aucun des GAFAM n'ont vraiment joué à fond sur l'IA. Et ce n'est pas que ce pauvre Zuckerberg qui se prend des tomates. Enfin, ce riche Zuckerberg qui se prend des tomates.
Non, Google aussi est mal.
Voilà, c'est ça.
Et Apple, on n'en parle même pas.
Bah, on verra. Ça, c'est l'examen de passage, c'est la WWDC, hein, pour voir s'ils ont vraiment...
Ils ont rien, Apple. Ils vont prendre 10 ans de retard.
on verra dans quelques semaines.
En fait, vraiment, je pense que le truc qui fait remonter aussi, c'est que le leak non volontaire de leur modèle de langage Llama, là,
qu'ils ont... Le Llama, ouais.
Qui a leaké, hein. Voilà, c'est ça, le Llama, ouais. En fait, je pense que ça fait partie des choses qui ont dit « Ah, mais non, mais en fait, ils bossent vraiment sur un truc. » Et il y a quelque chose en interne, tu vois. C'est pour ça que...
Le pire, c'est qu'ils sont là...
La... fuité...
Ouais, toi, tu te dis... c'était
ça sent un peu la manipulation de marché, tu vois.
Une fuite.
C'est ça. Oh, mince. Parce qu'en fait, bizarrement, il ne s'est rien passé derrière. C'est-à-dire que t'as même pas entendu parler d'un gars qui a été ou licencié ou d'un procès ou... Oh, bah mince. J'ai laissé ma clé USB très sur la table.
Mais c'est vraiment, c'est ironique pour Meta parce que tous travaillent sur l'IA, on le sait, mais Meta et Google étaient dans les plus performants dans le domaine de la recherche, et Meta en premier, je veux dire, avec Yann, notre ami Yann Lequin, on dit Lequin ou Lecoun ? Lequin, qui est à la tête du département IA de Meta, ils sont vraiment au niveau de la recherche très 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 performants. Donc bon, écoutez, peut-être qu'entre les...
Moi, j'aimerais l'avis de Corben, parce que Corben est celui d'entre nous qui a le plus les mains dans le cambouis de l'IA. Il en fait toute la journée, il mange de l'IA au petit-déj. est-ce que tu penses à Apple à quelque chose ou ils ont rien ?
J'en sais rien, mais moi, ce que j'avais vu, il y avait cette histoire effectivement d'Apple Watch qui utilise de l'IA pour prédire un peu ton niveau de santé, etc. J'avais vu ça passer. Mais moi, ce que je trouvais sympa, c'était, enfin, je sais pas si c'est des rumeurs ou des vrais trucs, mais c'était cette histoire d'IA, mais tu sais, qui recopie ta voix pour par exemple, lire un SMS que tu reçois avec la voix de ton correspondant.
Moi, je pense que ça va être ça. Enfin, tu vois, je pense que ça va être des applications très concrètes de l'IA.
Voilà, c'est ça.
Ça va être genre alors
sur les photos ou tu vois sur plein de trucs.
C'est genre on l'utilise pour faire tel truc. Ouais. Et genre à la limite tu sais que c'est de l'IA parce qu'ils vont le mettre dans les slides, mais je t'en fous. C'est juste qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va.
Ouais, et puis ça justifie les core machine learning qu'ils nous vendent à chaque keynote sur les iPhones.
Moi, je pense que ça va être des trucs comme ça
sur les iPads. Ouais, je pensais ça va plus être sur ça en fait. Bah écoute,
Corben
a dit, je pense ça va être plus.
Corben a fait son intervention et a disparu.
Ciao. Allez, je me barre.
Allez, ciao. mais oui, je pense qu'il y a vraiment ça. Je pense que ça va.
Mais je suis un peu d'accord, et d'ailleurs, c'est la même analyse qu'on pourrait éventuellement faire sur Apple au niveau de la réalité mixte. Apple va probablement venir dans la VR, AR, MR, comme on veut. Mais à la façon Apple, sans vraiment dire que c'est du métavers, ils mettent jamais la charrue avant les bœufs et ils sont plus dans « voici ce que vous allez faire, on va remplacer votre écran d'ordinateur par des lunettes », plutôt que de dire « ouais, on a mis de l'IA ou on a mis de la VR dans notre truc ».
C'est comme le Wi-Fi qu'ils appelaient Airport. C'est tu vois, voilà, c'est,
exactement
c'est
ça.
Vraiment des trucs comme ça. Ils vont marketer le truc à la sauce Apple.
Tout à fait. Corben est revenu, mais juste avec du son. Visiblement, l'IA lui interdit.
J'ai un souci de, je sais pas. Enfin, Discord, tu sais, c'est de la merde. Hein. C'est le pire soft de la terre, Discord.
Comment ça ? Dis pas de mal de Discord. Moi, j'aime beaucoup Discord. Mais du coup, écoute, c'est quoi technologie iPhone ?
Non, c'est un micro Logitech que t'as, Corben, c'est ça ?
Logitech. Non,
ah non, pas du tout.
C'est un SM7B.
Non,
ok, désolé.
Comme dans le micro des streamers.
Ouais, le micro des streamers, le SM7B. Ah, voilà. Sauf moi qui ai un PR40. On le dit en anglais parce que, comprenez, hein, PR40, si tu dis PR40, ça fait.
Ouais, moi, j'ai un 80-20-20i. voilà.
Donc, c'est tout pour nos gros sujets, mais on va passer à ce que vous attendez tous, l'IA que Corben a créée pour me remplacer. Ça arrive bientôt. Avant ça, tout de même, avant que je ne sois complètement remplacé, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y en a peut-être qui ne savent pas, qui écoutent depuis pas longtemps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Comment ça fonctionne, Patreon ? Vous vous posez la question. Ben, vous allez sur Patreon, vous choisissez un niveau de soutien à l'émission. Vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, 3 euros. Il y a des bonus différents en fonction du niveau de soutien que vous choisissez, mais tous soutiennent. Et à la fin du mois, ben, vous êtes débité pour tous les soutiens que vous avez faits sur le site, que ce soit au Rendez-vous Tech ou d'autres. Donc, c'est super simple. C'est vraiment hyper facile à mettre en place. C'est un site qui est quand même présent depuis, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui a la confiance de beaucoup de gens, dont moi, depuis tout ce temps. Donc, je peux vous dire que, enfin, comme tous les services Internet, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup et je l'utilise depuis longtemps et j'en suis satisfait. Donc, je pourrais dire que si vous souhaitez, en plus peut-être des abonnements que vous prenez par ailleurs, hein, un Netflix, peut-être que vous êtes abonné à une publication de presse traditionnelle ou ce genre de choses, et ben, si vous voulez aussi soutenir cette autre branche des médias qui s'est développée avec Internet, qui est les créateurs de contenu, eh bien, vous pourriez intégrer à votre petit budget, si vous le pouvez, de soutien des choses que vous appréciez ou que vous aimez, eh bien, des créateurs, dont le Rendez-vous Tech. Et vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous créez votre compte, c'est hyper simple, ça prend littéralement 2 minutes et vous pouvez soutenir cette émission. C'est en plus du coup des petits bonus, vous aurez, j'espère, la fierté et la joie de devenir un soutien physique, presque. On sent, on ressent votre amour physiquement quand Oula. Vous soutenez.
C'est très moite, hein, tout ça.
Ouais,
c'est,
ça va se terminer en demi-phase, ouais, ton histoire.
Tout est consensuel. No means no, tout ça, on est d'accord. Mais quand vous envoyez du soutien au Rendez-vous Tech, eh ben moi, ça fait chauffer. Ça réchauffe.
Je ressens physiquement, vous voyez.
Cringe alert.
Je le ressens physiquement. Mon cœur se réchauffe. Voilà ce qui se passe.
Il est connecté à sa cagnotte, Patreon.
C'est ça.
Ouais, je suis surtout connecté à mon estomac qui peut manger et les couches de ma fille qui peuvent être changées.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vous remercie tous et on continue avec une nouvelle partie de l'émission qui n'est pas nouvelle, qui est juste la prochaine, qui est donc le reste de l'actualité. Dans lequel on va couvrir l'IA, enfin, ça y est, on y arrive. Alors, il y a plein de trucs intéressants qui se passent dans le domaine de l'IA. Je ne vous raconte pas à quel point je dois écrémer les news sur l'IA parce qu'il y en a littéralement des centaines chaque semaine. J'essaye de ne vous en garder que le plus intéressant. Et la chose la plus intéressante, on va commencer par un truc rigolo quand même au début. Je sais pas, je vais pas mettre la musique parce que ça va me faire, ça va pas passer sur les plateformes, dont Spotify, tout ça. Est-ce que vous avez vu la pub pour la bière à la mode américaine créée par IA en vidéo? Donc, c'est une pub. Je la mettrai dans la newsletter avec plein d'autres choses, notamment. Avec plein d'autres choses intéressantes, hein, dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com. Mais il y a de nombreuses vidéos, enfin, plusieurs vidéos qui ont été créées par IA. Donc, c'est plus juste de l'image, c'est pas juste du texte. C'est de la vidéo. Et celle, la dernière qui est populaire, c'est une vidéo pour une marque de bière fictive, évidemment, qui a été créée par IA. Et c'est à la fois hilarant et cauchemardifiant, parce que non seulement ça reprend les codes des pubs pour bière américaine avec « c'est la fête, on boit de la bière, il y a des feux d'artifice, il y a de la musique genre punk rock des années 2000, ce genre de trucs », mais en plus de ça, il y a tous les défauts malaisants de génération par IA, sauf qu'en vidéo, c'est bien pire encore qu'en image. Là où on avait juste « oh, il y a trop de doigts, il y a trop de dents », là, c'est des mouvements de bouche qui lèchent la canette, mais genre la bouche, c'est une sorte de bouche alien qui est en train de fondre. Il y a enfin, c'est indescriptible, mais je trouve ça hilarant, moi, personnellement.
Il y en a une autre aussi qui était pas mal, c'était on voit un gamin en fauteuil roulant là, qui c'est une espèce de bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vu, c'est là, un peu de bande-annonce de film, et vraiment bien aussi quoi. Ouais, je la retrouve.
Ah, juste qu'elle était bien, pas qu'elle était drôle, parce que celle-là, elle est en plus très drôle. Genre le
non mais là, elle est drôle aussi, mais de la qualité est meilleure même que celle de la bière.
Eh ben,
elle
c'est
a été retouchée ou pas? Parce qu'il y en a qui les retouchent. Alors, en fait après. Tu vois,
je pense que ça a été retouché. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui n'est pas généré avec l'IA, mais ça a été retouché, je pense.
Ouais, ils font ça frame by frame, ils enlèvent des trucs.
Et bien justement, ce qui est notable là-dedans, en fait, au-delà de la rigolade, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en moquent en mode « Ah, oh, regardez, l'IA, on nous dit que ça marche bien, mais regardez ça, oh, c'est incroyable, c'est super réaliste. Hein. » Bon, ok. Sauf que là, il y a deux semaines, on avait genre des images minuscules qui voulaient rien dire. Maintenant, on a ce genre de truc débile qui est ridicule. Mais quoi, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on aura des IA qui seront capables de nous faire... Alors, fais-moi une pub qui discrédite Emmanuel Macron ou Mélenchon ou je sais pas quoi, avec tel et tel truc... Telle et telle scène, et il la génère d'un coup.
Il y a déjà une pub anti-Biden faite par IA, diffusée.
Alors, c'est des images créées par IA qui ont été utilisées dans la pub. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, là, en fait,
ce que tu dis, t'as raison. Il y a 2 mois, on se moquait des 6 doigts de Midjourney.
Ouais.
Maintenant, Midjourney, il te fait un doigt, parce que tu les vois plus du tout, les 6 doigts dans Midjourney, les 40 000 dents et tout.
Ouais.
En fait, ce que je veux dire, c'est que même quand tu dis 1 ou 2 ans, moi, j'ai l'impression que l'IA arrive à corriger les problèmes d'IA de plus en plus rapidement.
C'est sur tous les secteurs, il y a la musique, il y a la vidéo, la photo, le dev, il y a tout, quoi. Tout,
et ça va à une vitesse de correction de problèmes. Donc, on est là, nous, petits humains, à se rassurer. Ouais, j'arrive encore à reconnaître, mais dans une semaine, t'arriveras pas à trouver le problème. En fait, on en est là. Et ça frôle la perfection maintenant au niveau photoréalisme. Donc, la vidéo, moi, je dis, dans 2 mois, on verra plus. Ouais. On verra plus les défauts. Et je pense que les moments qu'on vit maintenant sont précieux parce que c'est la seule, peut-être, fenêtre de tir où on peut comprendre comment ça marche. Parce que moi, ce qui me fascine dans ces vidéos, c'est de comprendre comment ils génèrent. Tu vois, le truc des bouches qui vont... En fait, le sentiment que tu as en voyant ces vidéos, c'est qu'est-ce qu'une vidéo et comment une IA... Alors, je sais qu'elle ne comprend pas, mais en fait, quels sont nos mouvements? Qu'est-ce qu'une probabilité à haute dose va générer comme mouvement de bouche, de liquide qui coule, et je trouve ça hyper fascinant.
C'est ce qu'elle perçoit, en fait, avec ce qu'on lui a appris, entre guillemets, mais c'est vraiment ça, elle perçoit, en fait, les mouvements comme ça. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la vidéo, c'est que, et après, il faut relativiser le truc, c'est l'enchaînement de plusieurs images, et souvent, tu as des images qui n'ont pas fini d'être générées, en fait, et c'est pour ça que tu as ces impressions bizarres de bouche qui se décollent du visage, finalement, et qui vont sur le verre, etc. C'est parce qu'en fait, c'est des images intermédiaires qu'il n'a pas le temps finalement de finaliser, ou du moins comme il interprète le mouvement comme ça, il le fait comme ça, mais la tête ne suit pas, par exemple, tu vois la bouche.
C'est une naissance en fait qu'on est en train de voir là, ça évolue, au fur et à mesure, ses yeux, ses sens vont s'affiner, quoi, en gros. C'est un peu ça,
comme ça que les enfants nous perçoivent. Tu vois,
c'est l'évolution.
C'est possible, c'est possible.
Non, mais...
Et du coup, Et du coup, il y a plein d'autres choses intéressantes qui ont été, qui ont apparu cette semaine. Il y a, entre parenthèses, Microsoft Designer, qui fait partie de Microsoft 365 ou Windows, non, Microsoft 365. Il prend une requête. Vous tapez votre requête, genre fais-moi une carte de visite pour Corben qui fait des sites internet. Et ben, il va vous générer ce design directement. Vous pouvez faire pour des millions de trucs. Et vous pouvez le retoucher ensuite, mais et du coup, les éléments sont retouchables. Genre le texte, vous pouvez le retoucher, changer les photos, etc. Hyper intéressant. Il y a voilà, c'est un Canva, mais qui génère tout ton design avec une IA à partir de ta requête.
Il y a des intégré à PowerPoint.
Exactement, exactement. Il y a des scientifiques qui ont interprété des images de fMRI, d'imagerie par résonance magnétique, pour, je vous la fais courte, lire la pensée des gens. C'est-à-dire qu'on regarde la génération d'énergie dans votre cerveau et du coup, on peut interpréter par IA ce que vous dites ou ce que vous dites. Bon, incroyable. Enfin, ce que vous pensez. Pas ce que vous dites, mais ce que vous pensez. Et il le génère directement avec une IA. Je passe sur la suite. Il y a des hôpitaux aux États-Unis qui utilisent GPT-3, donc même pas GPT-4, hein, GPT-3, pour pré-répondre à des questions de patients dans les bureaux des docteurs. Et la pré-réponse, c'est-à-dire que c'est une réponse qui va ensuite être éditée par le médecin lui-même pour répondre, c'est par communication par mail ou par leur système propriétaire, mais le truc qui est notable, c'est que vous allez dire « Ah mais oui, mais merde, ça fout la merde, donc c'est s'il me répond mal, machin. » Alors, bien sûr, le docteur est censé revoir la réponse ensuite, mais surtout, selon leur test, même avec GPT-3 seulement, et leur GPT-3 retravaillé, eh ben, il répond mieux que les docteurs eux-mêmes. Donc, voilà. Et un autre truc intéressant, c'est l'EGGPT. C'est un Français qui a alimenté une IA de génération de texte avec 148 000 articles légaux et qui ensuite lui a donné donc la possibilité d'interagir avec les gens. Donc, on lui pose des questions comme à ChatGPT et ça vous pond des documents légaux. Un truc qu'on pouvait déjà faire plus ou moins avec ChatGPT normal, mais là, il est spécialisé. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des trucs où c'est un petit peu la roulette. Hein. Il y a des fois, ils vous pondent le bon document ou ils vous répondent bien à la question et parfois non. Mais ça donne encore une piste intéressante sur les utilisations. On pourrait parler de tout ça. Je veux aussi que Corben nous explique un petit peu parce que depuis quelques mois, tu as vraiment, comme disait Jérôme, les mains dans le cambouis.
Moi, je m'amuse. Ouais.
Et tu t'amuses. Et tu m'as montré un petit script pour alimenter ton blog que tu n'utilises pas vraiment, mais qui était assez intéressant. Et il y a aussi des trucs que tu fais avec des podcasts. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux utilisations que tu as bricolées ?
Ouais, bah en fait, moi, en ce moment, je fais un gros travail de rafraîchissement de mon site sur des archives, etc. Donc, je joue pas mal avec l'IA pour retraiter, par exemple, des vieux contenus, etc. Ou même en faire des nouveaux. Et l'idée, c'est évidemment pas de faire un site automatique, tu vois, parce que la qualité n'est pas là encore, mais ouais, j'ai fait un script en Python qui, en gros, tu lui donnes à bouffer des liens, tu vois. Par exemple, je peux prendre les liens de ton document de préparation de l'émission du rendez-vous tech, et puis je lui donne le truc, je lui donne les liens, et lui me régénère un article vraiment original, tu vois. C'est pas du copier-coller de ce qu'il y a dans les autres articles, mais il fait une synthèse, il comprend il comprend avec des gros guillemets, mais il comprend ce qu'il dit, il fait une espèce de synthèse. Et moi, à la fin, j'ai un article tout frais, tout beau, sur lequel je peux retravailler. En fait, tu vois, ça me donne une base pour aller plus vite. Tu vois,
c'est-à-dire que ton pour bien expliquer ce qu'il fait, ton script, il va chercher un article dont tu lui donnes le lien, il va le lire, même si c'est un article en anglais, le lire et en pondre un résumé en français. Mais là,
et puis, je passe des articles en chinois hein, si j'ai envie, c'est pas.
Oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr, mais ouais. Ce qu'il écrit ensuite est en français et il va pré-remplir ton CMS, je l'imagine que c'est WordPress, pré-remplir l'article sur ton blog et toi, tu n'as plus qu'à appuyer sur publier si tu le souhaites. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il le fait avec ton style, tes blagues foireuses. Et du coup, c'est pas du tout comme on pourrait penser. Ah bah tu lui as mis un article TechCrunch, il te refait une traduction de TechCrunch. C'est pas ça. C'est que tu lui as suffisamment bien indiqué les choses pour qu'il insère des blagues à la con que tu ferais sur ton blog.
C'est ça, mais ça, c'est toujours le secret, que ce soit pour Midjourney ou GPT, etc. C'est toujours le secret, il est dans le prompt, en fait. Donc, donc après, c'est juste affiner le prompt encore et encore et encore. J'ai pas fini, hein, tu vois, c'est pas parfait. Il faudrait que je l'améliore encore. Mais voilà, c'est ça la partie intéressante. C'est comment, enfin, qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'elle comprenne ce que tu veux lui obtenir, quoi. Et ouais, donc ça, c'est ça qui a, enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'une fois que j'aurai vraiment réussi à faire un truc, parce que pour l'instant, je peux pas, tu vois, lui donner tous mes articles et lui dire, voilà, apprends de moi comment j'écris, etc. Et voilà, donc je suis obligé de faire un espèce de faux moi, quoi. Mais plus tard.
Ça, c'est parce que tu passes par l'API de ChatGPT. Tu pourrais utiliser, par exemple, Llama ou Alpaca ou des trucs en disponible,
mais c'est...
qui sont moins bons.
J'ai fait des tests, voilà, c'est moins bon quand même pour l'instant, mais. Bon voilà, moi j'attends, je laisse le temps passer. À un moment, on aura ce que j'ai besoin, ça va arriver, donc je pourrai l'implémenter. Mais voilà, et ce qui est intéressant avec ce que j'ai fait aussi, c'est que surtout, je lui fais cracher de la donnée structurée. C'est-à-dire que il me répond, mais il me répond en JSON, tu vois. Et après, moi, ce JSON, je le décortique et je l'insère dans mon WordPress. Donc le titre, le contenu, les tags, les liens, enfin la totale, quoi.
Ouais. Tu lui dis généralement un titre et pour chaque élément de ton article, tu peux les avoir, enfin tu les as extraits et pas juste un vomi de texte dont tu sais pas quoi faire pour ton.
Ouais, c'est ça, voilà. Et après, moi, la prochaine étape, là, faut que je joue encore avec d'autres IA, parce que Midjourney n'ont pas d'API officielle encore, mais bon, ça devrait sortir aussi. Mais la prochaine étape, ça va être même de générer les images, tu vois, pour les images d'en-tête à partir du contenu. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire aussi à terme, c'est, tu vois, reprendre des vieux articles à moi qui sont assez courts et assez vieux, les faire réanalyser automatiquement par l'IA, c'est-à-dire explorer à la fois les liens et même le contenu de l'article en lui-même, et puis sans changer ce que j'ai écrit, mais tu vois, venir le compléter, le corriger, remettre les liens à jour et tout en automatique, quoi. Donc voilà, ça fait partie des trucs.
C'est le but. À la fin, tu as aussi utilisé, donc tu as fait un podcast. Tu as fait un test sur, avec Eleven Labs, un truc dont je parlais il y a quelque temps, que j'avais donné en démo aux auditeurs, mais c'était en anglais. Tu as fait quoi, toi, avec, maintenant que la version multilingue est disponible?
En fait, j'ai essayé en français. Donc, en gros, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un mini podcast, enfin de m'écrire un podcast. Je l'ai copié-collé dans le machin et il m'a fait un podcast avec ma voix, en fait. Donc j'ai synthétisé ma voix comme tu l'avais fait, sauf que je l'ai fait en français, puisque maintenant il supporte les langues étrangères, etc. Et bon, j'étais un peu déçu, tu vois, c'est pas encore utilisable en l'état. Autant en anglais, bon, quand on n'est pas anglophone et qu'on parle pas anglais couramment, on se rend pas forcément compte, on trouve ça cool. Mais là, en français, je peux dire que c'est assez monocorde. C'est bon, c'est pas. Ouais. Voilà, mais alors, on reconnaît quand même des intonations de ma voix en français, effectivement.
Ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais fait deux enregistrements, dont un pour faire mon botnet Patrick77 sur Twitter, qui a créé des podcasts en anglais pour mes émissions en français. Donc, j'avais fait deux enregistrements déjà. Un où j'ai pris un gros accent franglais. Et un où j'ai essayé de parler naturellement en anglais. Et il y a des petits trucs, des paramètres à changer. J'en ferai peut-être un after show d'ailleurs aujourd'hui où je vous expliquerai comment fonctionne exactement Eleven Lab. Mais il faut enregistrer toujours en anglais et lui, ensuite, peut vous créer du texte en français. Je vais essayer de vous montrer, hop, normalement, vous devriez entendre le résultat, ce que ça donne de deux extraits que j'ai pris. Et j'ai pris un texte d'un tweet que j'ai envoyé sur le compte RDV Tech de ma veille. Voilà ce que ça donne.
La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques et hilarantes. Ici, la bière aux US. Tout le monde s'en moque, mais moi, je pense déjà aux vidéos politiques de 2025 ou 2026 ans, quand on ne pourra plus dire si c'est une vraie.
Alors, ça, c'est l'un des résultats. Et ce qui est marrant, c'est qu'un autre résultat avec un autre enregistrement, ça donne
la
ça.
La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques. Et hilarante. Ici, la bière aux US. Tout le monde s'en moque. Mais moi, je pense déjà aux vidéos politiques de 2025.
Alors, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas... On sent les intonations, comme disait Corben, on sent mes intonations. Mais c'est un truc qui est enregistré avec un enregistrement en anglais à la base. Enfin, ma voix était fournie en anglais à la base. Et la voix en anglais, ça donne ça,
gamers,
en fait.
The PS5 and Xbox Series X are finally here. The PS5 boasts lightning-fast load time.
Vous voyez, l'anglais, c'est un accent vraiment anglais. Et là, le français,
c'est un accent
vraiment français.
La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques. Ouais. Et il a...
Et c'est marrant de voir la différence de son entre les deux types de voix.
La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques. La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques.
Et il y a des moyens d'ajuster un petit peu les trucs.
Ouais, mais là, on dirait un e-book. En fait, on dirait que c'est un e-book qui est lu. Mm-hmm. Et alors, c'est marrant parce que ce que tu viens de me faire écouter, ça me fait penser à un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans TikTok. Je ne sais pas si vous avez pu jouer avec ça. Mais en fait, dans TikTok, tu enregistres une vidéo normale et en fait, tu peux changer ta voix. Mais vraiment changer ta voix. Mais il y avait avant des trucs, tu sais, genre robot, voix de robot, voix. Ouais. Je sais pas quoi.
Là, tu peux avoir la voix de quelqu'un connu, c'est ça?
Non, mais en fait, là, tu as des voix, mais tu regardes mon dernier TikTok là, d'aujourd'hui, là, tu vas voir, en fait, tu as les mêmes. Alors, moi, il y avait du bruit, on ne m'entendait pas bien, etc. Enfin, mon son n'était pas très qualitatif. Et j'ai changé la voix, donc j'ai une voix, franchement, on dirait que c'est une vraie voix. Bon, ce n'est pas la mienne, mais c'est une vraie voix.
Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en fait, du monde de merde dans lequel on vit. Mais imaginez, ça pourrait être vraiment pire. Imaginez que Zelda, le nouveau Zelda, soit sorti.
Moi qui parle.
Et 10 jours avant avoir sa sortie réelle et que tout le monde puisse y jouer là, maintenant, aujourd'hui.
C'est la vraie voix de Corben. Effectivement, c'est la voix est assez là, impressionnante. Ouais.
Et là, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en fait, je pense qu'ils décodent ce que tu dis. Et en fait, ils reprennent, comme tu t'as montré juste avant, les intonations, la façon dont je reprends mon souffle ou machin. Et en fait, ça doit être un mix entre la transcription texte de ce que j'ai dit et, et ma propre voix, en fait. Mais, et donc là, et c'est assez bluffant, en fait. C'est vachement bien, quoi, je trouve.
Les possibilités sont infinies.
Mm. Là où je pense que tout ça est troublant, ça ne durera qu'un temps, mais ça... En fait, plus rien n'est vrai pour nos sens aujourd'hui. Bon, on ne va pas parler de l'odorat, parce que pour l'instant, sur Internet, on est au balbutiement,
mais
je reconnaîtrais peut-être Corben à l'odeur quand même, quand on pourra transmettre. Mais en fait, j'essaye d'extrapoler sur ce qui nous attend dans les jours, les mois, les années à venir. Plus rien n'est vrai, plus rien ne sera vrai, on n'aura aucun moyen, et ça je me fais aucune illusion, on n'aura aucun moyen de détecter, on se rassure comme on peut aujourd'hui en disant « ouais, elle ne fait pas très naturel, c'est encore un peu haut, c'est pas tout à fait ». Mais ça, on a vu à quelle vitesse ils arrivent à corriger les défauts. Je pense que ça va être parfait dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Et du coup, nos sens qui, depuis la nuit des temps, nous permettent d'identifier les individus, sont quand même embrouillés. La vue, l'ouïe, il n'y a plus de sens, quoi. Qui est Corben ? Je ne sais plus, là, maintenant. Quelle est sa vraie voix ? Peut-être, non, mais imagine.
Il y aura que des...
Quelqu'un qui se met sur Internet aujourd'hui, qui découvre le TikTok de Corben aujourd'hui. Qui est Corben ? La voix qu'il avait aujourd'hui ou l'autre voix ?
On imaginez sait plus. Que Zelda, le nouveau Zelda, soit sorti.
Ah, c'est la vraie voix.
Voilà, moi, c'est New Corben.
Qu'est-ce que ces conneries, là ? Vous avez fini avec vos merdes de Zelda ?
C'est un mélange de... C'est Corben et Bigard ensemble, un mélange imprévu, improbable, mais qui peut cartonner, hein, Corben. Hein. Je pense qu'il y a...
Mais tu vois, on peut maintenant tu peux créer des personnages totalement virtuels, aussi bien la voix, la vidéo, le
physique. Ah, c'est un petit peu ce que je voulais faire sur le Battle 4 avec mon NotBot Patrick 77 là. Pardon, mon bot NotPatrick 77. C'est un petit peu ce que je voulais faire, un personnage virtuel, un petit peu basé sur moi. Alors bon, j'ai pas eu assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire, mais oui, complètement. Et
mais y a des
c'est ce que je dis.
Compte OnlyFans ou Mime avec des filles virtuelles et ils vendent des photos de filles virtuelles.
Il y a un groupe de K-pop qui est sorti hier. Le clip, la chanson et tout est généré par IA. Et ça sonne plutôt bien. Hein.
Le IA, alors c'est pas tout à fait ça, mais j'avais mis dans la newsletter il y a quelques temps un article sur les VTubers. Et c'était peut-être un article qui était réservé aux abonnés Patriotes, dans la newsletter version Patriotes, qui était hyper intéressant sur le succès des VTubers, et notamment au Japon, évidemment, parce que... Et il y a déjà des groupes d'avatars virtuels qui ont aussi une vie sur Twitch, et qui machin... Alors, ils sont encore joués, entre guillemets, par des acteurs qui sont remplaçables, des acteurs et des actrices, mais oui, on y est complètement. la création de personnalité virtuelle est intéressante. Moi, ce qui me frappe beaucoup plus encore, c'est le fait que ce que tu disais tout à l'heure et ce dont je parle et dont on parle depuis des mois, c'est le fait de ne plus pouvoir savoir ce qui est vrai ou pas. Et là où c'est vicieux, c'est que il y a un article intéressant d'ailleurs qui sera également dans la newsletter de Numérama, où ils ont parlé avec un général qui s'occupe de des opérations militaires dans le cyberespace des internautes, où il dit, dans l'article, il dit un truc qui est hyper intéressant, qui est, c'est intéressant parce qu'il répète, il confirme ce que je disais, le problème c'est que, qu'on sache finalement identifier ce qui est faux ou pas avec le temps, avec les études, etc., avec le comment dire, un petit peu de travail journalistique, bah, c'est, le problème est déjà posé parce que les gens ne vont pas croire. Et une fois que tu as émis ton jugement sur quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, donc je m'en fous et donc je n'y prête plus attention. Bah, c'est un gros danger pour nos sociétés et pour la démocratie.
Ah, et du coup, oui et non, parce qu'on l'a eu la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, quand Macron est sorti de je sais pas où et il a chanté oui, un chant avec des mecs, les gens se sont dit c'est faux, c'est de l'IA, je sais pas quoi, ça a été
oui mais on n'est pas encore dans un monde où c'est omniprésent. Tu vois,
non, mais du coup, le réflexe, enfin, le truc qui s'est passé, c'est que les mecs ont les journalistes ont interrogé l'Élysée a confirmé, fin de l'histoire, tu vois. Mais du coup, maintenant, ça va plus être comme ça. C'est ce que je vois. Bon, je peux pas savoir si c'est réel ou pas.
Exactement ça.
Donc, je vais mener l'enquête.
Donc, j'attends Ouais. Oui, ouais, mais je pense que si si on se fait immerger, inonder d'images qui sont fausses,
vivement les présidentielles,
que finalement, tu finis par défaut te dire, bah non, de toute façon, ok, non. Alors, peut-être que, comme on le dit, une conséquence positive, ça sera, je vais pas aller prendre mes infos sur Twitter, je vais aller sur des sites de
presse ça change. En fait, le truc, c'est qu'avant, on est déjà depuis très très longtemps inondé d'informations textuelles qui sont fausses, de choses qui sont écrites qui sont fausses.
Donc toi, t'es
optimiste. On vit avec, etc. Là, jusqu'à présent, effectivement, les vidéos et les photos, c'était une espèce de preuve, en fait, qui pouvait venir appuyer un truc. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc après, la preuve, elle va devoir venir d'ailleurs. Elle va devoir venir d'officiels, de scientifiques, de trucs comme ça. Mais on est déjà inondé de trucs faux. C'est juste que là, c'est le médium qui change, en fait.
Là où je suis d'accord avec Corben, ça va être un gros problème pour nous, les générations vieillissantes, je veux dire. Mais on va basculer probablement dans des nouvelles générations qui vont arriver avec ça. Pour nous, la différence entre quelque chose de réel et quelque chose de virtuel, c'est quelque chose d'important et de fondamental dans notre vision du monde. Et on a tendance à calquer le monde sur notre vision. Mais d'où c'est si important que ça ?
Non, mais c'est pas ça le problème. T'es en train d'habilement décaler la problématique. Le problème, c'est pas que ça soit virtuel ou réel. Le problème, c'est que ça soit vrai ou faux. Et c'est ça
c'était ce que je voulais dire dans le reste de ma phrase. La vraie question philosophique, rappelez-vous les cours de philo entre le réel, machin et tout, le plus important, c'est le vrai. Mais justement, en perdant ces espèces de preuves qui étaient une photo, une vidéo, qui étaient finalement naïves, parce que ça fait longtemps qu'on les trafique, est-ce que ça ne va pas donner lieu à des générations qui vont être plus douées que nous à chercher la vérité, parce qu'ils la chercheront, ils croiseront les sources, ils se construiront leur vérité, au lieu de se baser sur une réalité censée singer une vérité, quoi.
Quand tu vois les dégâts, rien qu'avec des articles sur des sites fake, même quand c'est écrit, par exemple, tu prends le Gorafi, même quand c'est écrit que c'est faux et machin, il y a quand même des gens qui vont prendre ça au premier degré.
Ouais, mais Jérôme, c'est que ceux qui naissent avec.
Oui, c'est que ces nouvelles générations seront habituées. Voilà,
c'est ça. Mais en fait, Cédric, tu les côtoies, toi, justement.
Oui, et en fait, désolé, hein, mais TikTok, Snap, etc., à partir du moment où c'est dessus, c'est vrai, quoi. En fait, c'est pour ça que je vois ce que veut dire Jérôme. C'est-à-dire que. Finalement, ils arrivent déjà
à. Mais Jérôme,
ça,
il parle que de la génération qui va naître aujourd'hui. Donc,
oui. Mais c'est tout comme. Corben a des enfants, t'as des enfants, tu sais en fait de quoi on parle, ils sont nés en fait. Mais quand ils vont y accéder, s'ils ne sont pas éduqués, alors ils retomberont dans les travers de la génération précédente. Ouais. C'est surtout ça. Et en fait, la problématique, c'est qu'on rejoint toujours le problème de l'éducation. C'est-à-dire que nous, par exemple, à l'école, là, en première année, on a une journée avec l'un des fondateurs du Gorafi qui vient expliquer la différence entre la satire, la fake news et tout ça. On leur apprend à construire des fake news et donc à les déconstruire. Mais si les écoles ne font pas ça, ben en fait, c'est, ça restera une source considérée comme fiable ou t'inquiète, c'est mon cousin qui l'a dit, il connaît quelqu'un qui travaille au ministère de machin. Enfin, non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai problème d'éducation. Ils ne vont pas juste parce qu'ils sont nés avec ça, automatiquement maîtriser ça en fait. Et d'ailleurs, ouais, on voit, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec les ordinateurs, les tablettes, les
smartphones.
Exactement,
c'est ce que j'allais dire.
Ils savent les utiliser basiquement, c'est-à-dire ils savent swipe, installer une app et tout ça, mais ils savent pas comment ça marche. Et si d'ailleurs, on ne leur apprend pas,
quand tu vois les tutoriels sur TikTok pour installer un logiciel pour faire ci ou ça, c'est pas bon, bah t'installes depuis le site, c'est vous tapez tel truc dans l'URL, vous allez cliquer sur ce lien, vous double-cliquez pour le lancer, vous dites oui pour confirmer sur Windows. C'est vraiment genre le pas à pas. Bon, écoutez.
C'est ça.
J'espère que au moins les gens qui écoutent cette émission sauront parler de ces choses-là avec leurs enfants, parce que si même nous on ne sait pas, on est en merde. Twitter, qu'est-ce qui se passe sur Twitter ? Alors, d'abord, il y a du Mario sur Twitter. Vous avez été sur Twitter ce week-end ? Est-ce que vous avez vu le film Mario qui vient de sortir au
cinéma ? Alors, il n'est pas entier, il manque la fin.
Mais si, il est en deux tweets.
Il n'y a qu'une heure.
Non, il est en deux tweets.
Ah, il est en deux tweets, voilà, mais c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est bloqué à une heure, en fait.
Ouais. Bah, en fait, évidemment, avec les nouvelles fonctionnalités Twitter Blue d'Elon Musk qui permettent notamment d'uploader des vidéos longues, eh ben, il y a des gens, et un compte en particulier, qui s'est amusé à uploader le film de Mario entier, ce qui n'a pas énormément dû plaire à Nintendo. Et donc, il s'est fait bloquer par Twitter une fois qu'ils l'ont découvert, sauf qu'il l'a réuploadé. Le même, hein. Genre trois fois de suite dans le week-end, et à chaque fois, il est resté disponible plusieurs heures.
Ouais, le temps de le regarder, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des gens... Alors, évidemment, ce n'est pas les meilleures conditions pour le voir, mais tu le mets en plein écran, ça marche. C'était assez marrant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont encore une fois fait la preuve de la déchéance de Twitter. Oh, c'est le genre de truc, voilà, ça se fait bloquer, c'est pas la fin du monde. Peut-être que ça mine la confiance des annonceurs, c'est vrai, c'est un problème.
Il y a déjà eu ça sur YouTube,
En fait, c'est plutôt le fait que, comme ils ont envie de devenir une plateforme de destination, ils n'ont pas anticipé les problèmes de DMCA et tout ça, en fait.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe. Ça, c'est sûr.
Mais voilà, mais ils se disent, finalement, les autres ont eu leur période où ils faisaient n'importe quoi, etc. Mais en fait, le problème, c'est que c'était la construction de YouTube, de Dailymotion, de
Maintenant,
Twitch,
ça devrait
etc.
être réglé, donc, ces problèmes.
Et voilà, et là, normalement, en fait, à partir du moment où tu construis un service comme ça, tu dois te dire... Les autres se sont fait taper sur les doigts, et c'est une obligation légale, c'est-à-dire que toute nouvelle plateforme doit respecter la loi, en fait. Donc, normalement, ils sont censés le faire d'eux-mêmes. Mais en fait, ils se sont dit, je pense qu'au fond d'eux, ils se sont dit, on va lancer cette fonctionnalité, c'est génial, mais de toute façon, personne ne fera ça. D'accord.
Ouais. Bon, je pense que les gens, enfin, tu peux toujours créer un compte en plus, mais il faut mettre ton numéro de téléphone, ta carte bleue. C'est possible de hacker le truc, mais qui va aller s'emmerder à uploader des films sur Twitter ? Il y a bien d'autres moyens pour faire ça. C'est pas très très
génial.
HDLoga dans le chat dit un truc très exact. Il dit ils sont très actifs sur les extraits de foot qui se font ban en 20 minutes. Mais parce qu'en fait, il y avait une négociation avec la FIFA pour la Coupe du Monde, etc. Donc, ils ont créé l'algo. Pour supprimer ce genre de truc. Ouais. Mais ils n'ont pas créé d'algo pour supprimer des films, puisque jusqu'à maintenant, les bandes annonces ont été autorisées, etc. Donc, c'était compliqué.
Ça va d'ailleurs, arriver. Ça va arriver.
D'un film de foot, peut-être que tu vois Ted Lasso.
Un film de foot possiblement. Ouais,
ou Ted Lasso, tu vois, je ne sais pas.
Il y a moyen. Elon Musk a dit qu'il y aurait. Qu'il permettrait aux médias, donc la presse et d'autres, de faire payer les utilisateurs. À l'article à partir de ce mois-ci, mai 2023. Alors, les promesses d'Elon Musk, on sait ce que ça vaut. Mais l'idée pourrait être intéressante. Ça n'a jamais décollé, le fait de payer à l'article les micro-micro-transactions dans le monde de la presse. Et pourtant, c'est un truc que beaucoup de gens chassent depuis longtemps. Peut-être que Twitter pourrait être la solution pour ça. À côté de ça, on parlait de loi. On vous parlait du fait qu'il a distribué des faux badges bleus à plein de gens qui n'avaient pas payé pour... Selon certains experts, ça pourrait effectivement être de la fausse publicité, en fait, parce qu'il fait croire que les gens ont pris cet abonnement alors que ça n'est pas le cas. Bon, là encore, peut-être que ça donnera quelque chose.
J'ai enfin mon badge bleu, ça y est.
Très bien.
Vous pouvez me bloquer.
Ça y est, j'ai enfin perdu mon badge.
Il m'a fallu une semaine avant qu'il s'active quand même.
Je vais faire dans l'autre sens par rapport aux notes que j'ai prises. Blue Sky, le réseau décentralisé initié par Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter, commence à gagner en popularité. Alors, c'est encore en preview, early access, machin, mais il semblerait que ça puisse être un prétendant au remplacement de Twitter, si jamais ça se fait un jour. Et on a aussi des nouvelles sur Barcelona, le Twitter d'Instagram. C'est une équipe d'Instagram qui développe une application indépendante qui est basée sur le texte, donc qui serait un petit peu une sorte de Twitter. Ces deux-là semblent les plus promptes à remplacer potentiellement Twitter si un mouvement se fait. Il faut noter aussi que Mastodon a amélioré son expérience d'utilisateur pour ceux qui créent leur compte. Ils n'ont plus désormais à choisir entre 75 000 instances. À la base, ils sont sur mastodon.social et basta. Donc, c'est un peu plus simple. Mais le truc le plus intéressant de tout ça, c'est le procès que fait Francis Lalanne à Twitter, qui l'accuse de travail dissimulé parce que quand Francis Lalanne tweet, ça fait de l'argent pour Twitter. Et donc, c'est du travail dissimulé. Et donc, il réclame 100 000 euros à Twitter. Bon, il a eu des déboires avec Twitter. Il s'est fait bloquer, machin, tout ça.
Il a raison. On devrait tous faire pareil. On serait riches.
Complètement. Je suis... Mais c'est marrant parce que tout le monde va en rire. Et effectivement, c'est assez risible. Personne ne t'oblige à utiliser Twitter. Il est clairement indiqué dans ton contrat avec Twitter que quand tu utilises Twitter, bah, eux, ils peuvent mettre de la pub et c'est comme ça que le service fonctionne, etc. Enfin, ton contrat, les conditions d'utilisation. Si je fais le parallèle avec un autre service dont certains utilisateurs déclarent être des employés, comme Twitch, par exemple, il y a plein de gens qui disent oh, « Mais tu ne te rends pas compte, on travaille énormément sur Twitch, machin, on est un petit peu des employés, en fait, il faudrait qu'on soit payé par Amazon. »
Un salaire.
Eh ben pour moi, c'est
ça s'appelle
c'est ridicule, quoi.
Prime Gaming. N'hésitez pas à lâcher votre Prime Gaming. Je suis Patrick.
Avec TikTok. Twitch, t'es rémunéré. TikTok, t'es rémunéré aussi. Enfin, tu vois, si,
Patrick, à la façon de Francis Lalanne, qui est la sienne, mais il pose tout le problème de l'Internet qui s'est construit depuis 20 ans, le user-generated content.
Exactement.
Nous travaillons gratuitement. Pour que certaines personnes se fassent beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, on peut poser le truc comme ça. Et c'est vrai que ça
oui,
peut
on
être
se trompe,
un
mais on
des
peut
biais
comme
de
ça.
Ça peut être un des biais de perception. Ce que ces compagnies vont te dire, c'est que notre récompense entre guillemets n'est pas de l'argent, mais une forme de satisfaction, d'entertainment, d'information ou ce genre de choses. Mais le fait reste le même. On a donné du temps à des plateformes qui, et ce temps leur permet de générer de l'argent.
Tu sais ce qu'on et devrait si faire envie, on devrait faire un procès à TF1. Parce que quand je regarde TF1, finalement, ils se font de l'argent. Je travaille. Et vous pensez que c'est facile de regarder TF1, franchement, hein? C'est
y a
pas
quand
facile.
Même une nuance.
C'est du vrai
y a quand même
boulot.
Une nuance.
Donc,
il y a quand même une nuance. C'est que là, sur ces plateformes, et c'est là où Francis Lana a raison, un tweet,
produit.
C'est une génération de contenu. Tu as généré un contenu. En fait, Twitter, YouTube, Twitch, ils n'ont pas des gens qui créent du contenu pour eux. Ils ne salarient pas des gens qui créent du contenu. Ils prennent le contenu des utilisateurs et ils le monétisent.
Mmh.
Ouais. C'est un peu comme si... Non, je vais arrêter avec les analogies, je vais me planter.
J'aime bien quand tout à coup, il y a...
C'est l'avocat du diable.
Mais c'est pas moi qui fais l'avocat du diable. alors, est-ce qu'on doit prendre le temps de répondre à ton argumentaire savamment construit, Jérôme, ou est-ce que tout le monde comprend que quand on utilise Twitter, bah, on utilise un service, on en retire les bénéfices, et pour fournir ce service, il faut bien que la société qu'il fournit se paye, et c'est comme ça qu'ils génèrent leur argent. C'est la même chose pour YouTube, pour Twitch, pour tout le reste. Et que personne ne t'oblige à utiliser Twitter, mon garçon. Et il dit même, il y a un lien de subordination parce que ceci. Bref, mais ça m'a fait rire.
Ils veulent CDI, je crois.
Pardon ?
En fait, Francis Lalanne, c'est un Elon Musk, mais sans les fusées, sans les voitures électriques, sans... Voilà. Et, voilà.
Avec les arbres.
Et les bottes.
Et les bottes. Bottes de cow-boy et arbres.
Je crois que c'est à peu près tout pour Twitter. Petite note pour mentionner que ARM semblerait avoir lancé son entrée en bourse. Donc, entrée en bourse d'ARM qui serait imminente après l'échec du rachat par Nvidia. Je ne sais pas si on veut d'un ARM en bourse. Hein. Ils sous-tendent tellement toute la construction. Pour ceux qui ne savent pas, ARM, c'est les architectes des processeurs qui sont ensuite repris et modifiés par, on va dire, l'ensemble de, des constructeurs de machines informatiques du monde. Tout le monde utilise des processeurs ARM. Alors, il y a Intel à côté qui continue à développer son architecture, et il y a plein de machines qui marchent sur processeurs Intel, mais aujourd'hui, de plus en plus de machines qui fonctionnaient sur des processeurs d'architecture Intel fonctionnent aussi ou exclusivement sur des processeurs ARM. Tous les processeurs du monde, vos téléphones, vos télés, même pas mal de vos ordinateurs, certains encore, en tout cas tous les mobiles, eh ben c'est des processeurs ARM. Même Apple se base sur la base ARM pour customiser ses propres processeurs. Eh ben, ils rentrent en bourse, là, incessamment sous peu, semble-t-il. Leur processus aurait été lancé le 6 mars. Bon, non, pas le 6 mars, mais il y a, pardon, je dis une bêtise, mais il y a quelques jours de ça, quelques semaines.
Ouais, la vraie question, c'est est-ce que ça ne va pas favoriser un futur rachat, en fait ? C'est surtout ça. C'est-à-dire que maintenant qu'ils rentrent en bourse, en fait, ils ont voulu se faire racheter et ça ne s'est pas fait. Et là, en fait, le fait de rentrer en bourse va peut-être leur permettre, justement, avec une OPA hostile ou autre, se faire racheter par un concurrent, en fait. Je sens... Enfin, parce que
les actionnaires veulent
en bourse pour ARM,
une sortie.
Voilà.
Ouais.
Ouais, c'est peut-être. Ça. Mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi en fait rentrer en bourse pour ARM ? Ça peut...
Bah, pour financer des investissements supplémentaires,
ouais,
mais pour continuer à grossir.
Mais ils les ont, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà, les licences que leur reversent Nvidia, Apple et tous les autres font que normalement, enfin, en R&D, ils s'arrêtent pas d'ailleurs à R&D.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est assez bizarre, en fait. Et du coup moi, j'ai la sensation que cette entrée en bourse, c'est un peu pour habiller la mariée et se dire, allez, à un moment donné, on va peut-être trouver un repreneur, tu vois, ou se vendre à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas.
Peut-être.
Moi, je trouve un peu étrange
peut-être,
ce mouvement.
Ça serait intéressant que les Chinois se mettent à racheter Activision, Blizzard, ARM, tu vois, tout le monde tout à coup. Quand on ne laisse pas nos bonnes sociétés occidentales comme Microsoft racheter Activision Blizzard, peut-être que c'est Tencent qui va débarquer et racheter ARM et Activision Blizzard. Peut-être. Dernière news, aux États-Unis, il y a un projet de loi qui viserait à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans. Alors ça change pas grand-chose parce que moins de 13 ans, c'est déjà généralement la règle pour la plupart des réseaux sociaux, sauf que là, ça serait formalisé dans la loi. Mais également qui interdirait l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 18 ans sans consentement parental. En plus de ça, il y a des règles sur l'utilisation des données des enfants, etc., des choses qu'on a déjà ici en Europe, mais qu'ils implémenteraient aux États-Unis. Mais surtout, le fait d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 18 ans sans consentement parental, alors, ça pose tous les problèmes qu'on sait sur la vérification de l'âge, la vérification du consentement parental, etc. Il y a déjà des questions constitutionnelles sur le fait d'avoir des outils gouvernementaux qui vérifient l'âge. Les sociétés pourraient aussi implémenter leur propre système de vérification, etc., etc. Mais au-delà de ça, l'idée vraiment nouvelle et différente, c'est pas d'utilisation avant 18 ans, avant d'être adulte, sans consentement parental. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça ? Genre, on ne peut pas utiliser Twitter ou TikTok, enfin, surtout TikTok et Snapchat, sans consentement des parents. Je vais peut-être poser la question à Cédric, qui, encore une fois, fréquente des jeunes.
Des adolescents jeunes. C'est ça. Non, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Et,
Ah oui ? Je suis sûr
que moi, je trouve
que
c'est une bonne chose. Pourquoi ?
Tu serais un petit peu réservé. Bah, interdiction totale sans... tu vois, tu te dis, bon, utiliser TikTok, ça va. Bah, À 13 ans, ok, mais je veux dire, avant 18 ans, ça veut dire qu'à 17 ans, tu n'es pas capable d'utiliser TikTok sans dire à papa et maman.
Un peut-être un peu too much. C'est, ouais. C'est l'âge qui me pose problème dans ce contexte-là, mais par contre, je trouve plutôt pertinent, en fait, le fait de passer par une autorisation parentale quand tu as, bah, imaginons, 16 ans plutôt, tu vois, enfin, au moment où tu rentres au lycée, tu vois, voilà. Je trouve que c'est plutôt bien, et en fait, comme ça, ça va pousser les parents à être responsables. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est trop facile de dire « Ouais, c'est la faute aux réseaux sociaux si mon fils est en échec scolaire, machin, nanana. » Non, en fait, c'est ta faute. Tu lui as mis dans les mains un smartphone qui permet de faire ce genre de choses et tu le laisses le faire, en fait. Tous les problèmes de harcèlement qu'on connaît au collège, lycée, etc., à partir du moment où il y a l'autorisation des parents d'utiliser ce genre de choses, ça rentre les parents dans la boucle de la responsabilité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En gros, ils se cachent derrière le fait que, bah, regardez, il n'y a pas de modération sur ces plateformes, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que, et en fait, c'est trop facile. Et je pense que le fait d'impliquer les parents dans la boucle, de la responsabilité, c'est toujours une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, par défaut, les jeunes aient accès à ces réseaux, même en dessous de 18 ans. Si jamais ils s'y connectent, les parents sont responsable de leur avoir tacitement donné, tu vois, l'autorisation ou j'en sais rien. On peut imaginer le truc dans tous les sens, mais je pense que c'est bien de responsabiliser les parents. C'est-à-dire d'accord. qu'à un moment, si on arrive là, c'est qu'en fait, les parents sont en dehors de ça, en fait. Aujourd'hui, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants, en fait. C'est pas l'éducation nationale ou moi dans le privé, mais c'est pas à nous de les éduquer, en fait. Ouais. Et qu'ils soient dépassés par les outils numériques, etc., c'est une chose, et nous, on peut éventuellement prendre le relais sur ces outils-là. Mais la responsabilité, connaissant les conséquences qu'il peut y avoir derrière, ça relève, en fait, pour moi, des parents, en fait.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
En fait, c'est comme si tu disais, moi, j'autorise mon enfant à fumer, du coup, j'ai aucun problème. En dessous de 18 ans, il a le droit de fumer. Alors, il peut pas acheter des cigarettes, mais c'est toi qui vas lui acheter et que tu lui donnes. Il y a aucun problème, en fait, avec ça. À partir du moment où c'est toi qui assumes la responsabilité que ton fils demain aura peut-être des problèmes cardiovasculaires ou je ne sais quoi, ou qu'il sera addict à la cigarette, finalement, ça devient ton problème. Ton fils peut se retourner contre toi, etc. Mais parce que je veux dire,
c'est un peu dystopique comme exemple de comparaison.
Mais
je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles c'est interdit tout court et les parents n'ont pas le choix là-dessus, tu vois, sur la question.
Mais je suis d'accord. Mais oui, ouais. Mais alors, je pense qu'on sous-estime l'impact sur la santé mentale et même la construction des jeunes sur l'usage des réseaux sociaux.
Oui,
etc.
tu veux dire que de la même manière que les parents n'ont pas le droit de dire aux enfants qu'ils ont le droit de fumer, là, dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'il y ait au minimum l'aval des parents pour aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un gros impact
oui,
aussi.
Parce que,
c'est pas juste.
Mais tu vois, l'impact, quand tu t'entends qu'il y a un gamin de 15 ans qui s'est suicidé parce que les autres se sont moqués de lui parce qu'il a dit qu'il était homosexuel, tu vois, par exemple, qui est responsable? Et en fait, à la télé, tu vas entendre les réseaux sociaux, cet antre du diable, machin. Mais non, en fait, attendez, les gars, c'est un outil. Donc, le problème, en fait, c'est les gamins et les parents en termes d'éducation. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a...
C'est tu veux dire les gamins qui ont harcelé, les parents des gamins qui ont harcelé.
Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les parents sont toujours dédouanés de ça.
Je comprends ce que tu veux.
Et là, à partir du moment où tu mets un peu de responsabilité du côté des parents, tu vas voir qu'ils vont dire « Oh, attends, on va regarder ce que tu fais avec ton téléphone, là. »
C'est un angle auquel je n'avais pas pensé, effectivement, le fait que ça responsabilise les parents dans l'autorisation. Alors, évidemment qu'il y a ensuite... les enfants auront toujours des moyens. Et
Bien sûr.
D'une part, peut-être que 18 ans, c'est un peu trop haut, on sera d'accord.
D'autre part,
les enfants auront toujours des moyens de contourner, machin, mais... C'est pas parce qu'une loi peut être contournée qu'elle doit pas exister, peut-être même au contraire. Et cet angle du coup, les parents sont responsabilisés par rapport à ces usages et peut-être qu'ils doivent s'informer aussi sur ces outils qui ne sont pas forcément avec lesquels ils sont pas familiers.
En fait, on est en 2023, en fait.
Tu peux pas ne pas comprendre TikTok si tu as un enfant adolescent, quoi. C'est juste irresponsable.
Ouais, mais en fait, là, intéresse-toi à ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est quand on voit des gamins qui se retrouvent avec. Des tablettes H24, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, intéresse-toi à ce qu'ils regardent.
Sans aller jusque-là, je crois qu'effectivement, il est difficile, de mon point de vue, de ne pas, au minimum, être un tout petit peu familiarisé avec TikTok et Snapchat et ce qu'il y a et ce qui s'y passe là-bas, un minimum, quand on est parent d'un ado aujourd'hui. C'est assez important. Jérôme, je te vois trépigner, Jérôme, et puis on va.
Ouais. Non, c'est juste qu'on entend très souvent, on le voit partout, ouais, c'est en train de faire une génération de débiles, voilà, les enfants. Le
enfin, truc, ça, on l'entend depuis
le début de l'humanité.
Moi,
je ne suis pas parent, donc je ne me permettrai absolument pas de juger, mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue. Je pense que les générations qui arrivent, les plus jeunes, ont beaucoup de choses à nous apprendre pour qu'on puisse leur apprendre des choses. S'il n'y a pas d'interaction et qu'on est juste dans le jugement de valeur, que nous, on ne faisait pas ça, et que c'est débile ce qu'ils font, rien n'avancera. Et on tombe dans les discours générationnels qui sont aussi vieux que les générations.
C'est ça.
Je pense qu'il y avait un homme préhistorique qui a dû dire « Ouais, nous, avant qu'on ait le feu, on savait vraiment manger de la viande crue, quoi. Pas comme ces jeunes débiles, là, qui bouffent tout cuit, là. Enfin, c'est aussi vieux que les générations. » Et je pense qu'aujourd'hui, à la vitesse où vont les choses, il est hyper important qu'on s'écoute entre générations et pas qu'on se traite d'un côté de boomer et de l'autre de génération de débiles, parce que ça fait absolument rien avancer.
J'en parlerai peut-être dans un édito un jour. Je peux dire que parfois, moi, j'ai des soupirs quand je vois certains boomers dire des trucs. Je suis un petit peu... Mais je suis d'accord. Parfois, tu vois, c'est... Ok, d'accord. Très bien, boomer. Très bien.
Mais vraiment, en fait, ce que je dis, c'est pas...
Ceci dit, je fais la même chose avec les plus jeunes. Parfois, c'est genre, OK, comment ils s'appellent les après-millénials? Les gens qui sont vraiment nés avec Internet.
Bah, c'est la Gen Z, et maintenant, il y a les alphas.
Ouais, bon,
les,
bah,
les nouveaux, c'est okay, les alphas. Ouais. T'as Gen Z et alpha.
Très bien.
Merde. Et les pardon, bêta, Cédric, les bêtas sont en train de naître, là.
C'est eux qui vont naître.
La génération bêta, il va falloir qu'ils trouvent un nom, très vite.
Cédric, on t'a coupé.
Oui, non, en fait, ce que je disais, c'est pas du tout qu'il faut leur interdire ou il n'y a pas de jugement de valeur dedans.
Ouais,
c'est plutôt dans l'usage qu'ils en font. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut légiférer, c'est pas parce que ça les rend bêtes, mais c'est parce qu'en fait, parfois, ils font des choses bêtes avec. Et,
non, bien sûr. C'est complètement... La manière dont je le comprends, c'est complètement orienté vers la manière dont les parents vont éduquer leurs enfants aux usages du numérique, et c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais vu, je suis d'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode passionnant qui ne pouvait pas être autre avec les Fabulous réunis tous ensemble ici aujourd'hui. Donc un grand merci à vous quatre de m'avoir accompagné dans cette aventure informatico-actualitisante. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on prenne un instant pour que vous nous disiez où on peut vous retrouver. Commençons avec Cédric. Dis-nous tout. Où es-tu? Que fais-tu?
Alors, sur Twitter, le plus simple, Cédric de Lucas, avec le chiffre 2 et Lucas sans S. C'est celui qui a la pastille bleue, du coup, pour me faire... Si vous voulez me bloquer, du coup, Block the Blue, tout ça, là, vous pouvez.
Tu l'as pris pour des questions de visibilité, de durée de vidéo?
En fait, c'est un test. Je voulais juste tester, voir si le process était vraiment éclaté ou pas. Et le process est un peu éclaté parce que déjà, il faut plus d'une semaine avant d'avoir la pastille. Enfin, je voulais voir un peu ce que ça changeait. Pour tout vous dire, je l'ai pris pour un mois et après, je pense que je l'aurai plus.
Ah, d'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vérifient vraiment pour le coup si ça a pris une semaine ou alors qu'ils sont juste un backlog.
La vérification, ou c'est juste, je pense que le process n'est pas clair. C'est un mec qui, tous les lundis matins, dit « Alors, voyons voir la liste des gens sur lesquels je dois mettre la coche bleue. »
Ah merde, j'en ai 12 aujourd'hui, ça va me prendre une demi-heure.
Doit cocher, doit chercher le compte sur Twitter et dire hop, ok. Franchement, ça sent vraiment le truc comme ça. Et ce soir, du coup, je suis en live sur la chaîne Pulsar eSport et sur Studio Renegade pour The Red Rancor, où on va parler de... On revient sur la Star Wars célébration, puisque c'est la semaine du May the Force. Et donc, on va parler un peu de tout ce qui nous attend dans l'univers Star Wars. On a fait tout le Mandalorian, et maintenant, qu'est-ce qui nous attend plus tard? On va en parler.
Magnifique. Super. Merci beaucoup, Cédric. Jérôme, que fais-tu sur Internet tous les matins sur ta chaîne Twitch?
Twitter, puisque j'ai perdu mes lettres de noblesse authentiques, monsieur, faisant partie de l'aristocratie. Donc, je redescends dans le bas-peuple.
Ah, tu nous rejoins enfin. Mais tu sais que ça s'est inversé. Hein. Aujourd'hui, c'est ne pas avoir de marque qui est prestigieux.
Maintenant, les gens craignent que Elon Musk leur mette une pastille bleue.
C'est ça.
Franchement, c'est en prenant un peu de recul, c'est à mourir de rire ce qui se passe. Mais bon, bref. Donc, sur Twitter, je ne sais même plus comment je m'appelle sur Twitter. Je crois que j'ai changé.
Jérôme
_Nowtech.
Maintenant. Ah oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, bon, j'en ai profité.
Parce qu'il a eu la pastille bleue, il voulait l'enlever, et du coup, il a changé de nom et ça a fait changer.
J'ai perdu ma particule, donc maintenant, c'est YOLO.
D'accord.
On fait ce qu'on veut. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitch, ainsi que toute l'équipe, puisque c'est en alternance. Sur Twitch Nowtech Team et sur YouTube, toujours Nowtech avec des vidéos. On sort je fais ma petite pub, je sais pas quand on va sortir cet épisode. On sort un épisode avec 5 trucs cool à faire avec une IA pour ceux qui veulent commencer à mettre les mains dans le cambouis, pas qui vont te promettre de gagner 200 milliards de dollars avec une IA ou de changer ta vie ou de faire tout un site internet, mais des trucs cool.
Oui.
Des trucs cool.
Il y a tellement de threads Twitter. Je ne pourrais pas croire à ce qui se passe dans ce truc. Voici 10 exemples. Putain, j'en peux plus.
Ouais. Les prompts, les meilleurs prompts, machin et tout.
Science des prompts, les formations à 2 000 $. Apprenez à prompter. Bah, apprends à parler déjà et ça coûte pas cher.
Et bien justement, si on veut vraiment apprendre à prompter, Corben, que peut-on faire de ton côté?
Alors, bah, moi, je donne pas de cours de prompting, je mens souvent des trucs que je fais d'ailleurs sur ma chaîne Twitch, hein, du coup. Si vous voulez apprendre à prompter, peut-être on peut faire ça sur Twitch. Donc Twitch, c'est CorbenFR, sinon le blog, hein, Corben.info, et puis Twitter, moi, avec la pastille bleue aussi, Corben.
Magnifique, pour ma part c'est Notes Patrick. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les liens dans les notes de l'émission déjà, donc si vous voulez nous suivre sur Twitch ou alors nous rejoindre sur le Discord où on s'amuse beaucoup, on passe de bons moments ensemble avec les gens de la meilleure qualité possible sur Internet. C'est genre, il y a genre 5A dans la qualité de l'andouillette des gens qui viennent sur le Discord de la communauté Notes Patrick, c'est incroyable. Oui,
j'ai entendu andouillette et communauté Notes Patrick.
Ouais, communauté des andouilles, c'est les A.
Non, voilà. C'est juste. Bon, bref.
Culture. Tu aurais pu dire les poulets, la belle rouge ou un truc comme ça, pas les andouillettes.
Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner au Patreon sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement avec des vrais sous-sous pour que cette émission continue à se faire. Non, a priori, pour le moment, c'est pas qu'elle va s'arrêter demain. Hein. Mais si vous appréciez ce qu'on fait et que vous voulez soutenir, vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com/rdvtech. Je voudrais dire encore une fois un grand merci aux fabuleux Fabulous qui m'ont aidé à animer cet épisode. Un immense merci, bien sûr, aux Patriotes qui permettent à cette émission d'exister. Un immense merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch en live, en commentant avec joyeuseté et bonne humeur. Et un immense merci, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines ou presque et qui nous écoutent jusqu'à cette fin d'épisode mouvementé. Donc, gros bisous à tous et à tous et à toutes. Aussi, vous êtes plus de mecs que de nanas, donc c'est pour ça que j'ai dit deux fois tous. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, bisous.
On est les fabuleux andouillettes alors maintenant.
Ça me va.
Et pas Bulous.